Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
Actuellement, on estime qu'on a exploré 5% du fond des océans. La grande majorité, probablement, de la vase, très peu peuplée, etc. Ça, c'est probable. Mais on a découvert dans d'autres zones également, un petit peu moins profondes, dans les canyons, par exemple, des sites où il y a aussi des oasis de vie, des grands coraux, des coraux blancs qu'on appelle des coraux froids. Et on n'a pas fini l'exploration de ces zones-là. Vous avez aussi des explorations qui sont faites actuellement dans des zones qui sont très difficiles d'accès, il faut dire, des zones antarctiques, par exemple. On a quelques images et des vidéos de zones extrêmement riches. On n'a pas fini d'explorer ces zones-là. Elles sont très peu connues et on a probablement encore, je l'espère, d'autres bonnes surprises parce que la vie s'est développée vraiment un peu partout et on se demande vraiment ce qui pourrait l'arrêter. Hein.
Aline Fiala, 79 ans. Professeure et directrice adjointe d'un observatoire océanologique, embarquée à bord du sous-marin Le Nautile, à la conquête des abysses.
Du plus loin que je me souvienne, moi je voulais travailler sur la mer. Je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire, mais j'étais extrêmement... j'adorais la mer, j'ai pratiqué la mer même avant ma naissance. Et j'ai commencé l'université en 61 et à l'époque j'étais à Alger, on était en Algérie. Il y avait un cursus d'océanographie à l'université. Donc mon projet, c'était de faire ce cursus. Malheureusement, on a dû quitter l'Algérie en 62 à la suite de l'indépendance. Et j'ai commencé à ce moment-là l'université à Jussieu qui venait d'ouvrir. Et par chance, il y avait un programme de DEA d'océanographie biologique. Ce DEA d'océanographie, le directeur Pierre Drache, en 65, a pris la direction du laboratoire Arago, la station marine de Banyuls-sur-Mer. Et il m'a proposé de venir y faire une thèse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc, au laboratoire et où j'ai fait ma carrière. Ma spécialité, c'était l'écologie au départ. Et j'ai passé 2 ans à plonger en scaphandre autonome sur les fonds rocheux de Banyuls-sur-Mer pour faire des prélèvements et repérer à l'époque, c'était la grande époque où on essayait de décrire les peuplements, d'essayer de comprendre comment ils se répartissaient et de décrire les espèces qui les peuplaient. Et je me suis plutôt orientée à ce moment-là vers une thèse d'état d'écologie fonctionnelle. Et j'ai travaillé sur les processus de nutrition des organismes filtreurs. J'ai un peu travaillé aussi sur les mollusques, sur les huîtres, les choses comme ça, pour essayer de déterminer comment ils fonctionnaient, quel était leur mécanisme de fonctionnement et surtout quel était leur comportement en fonction des différents paramètres, qu'ils soient biologiques ou qu'ils soient environnementaux, température, concentration en nourriture, différents problèmes. J'ai passé cette thèse en 78, à la suite de quoi j'ai été me spécialiser, j'ai fait un stage aux États-Unis dans un laboratoire de biologie moléculaire parce que je voulais étudier la participation de la matière sous forme dissoute, qui est effectivement aussi importante pour tous les animaux. Et dans ce laboratoire, je devais me former à une technique qui était nouvelle, de chromatographie, qui permettait justement d'analyser des courants d'eau et d'analyser tout ce qui était acide aminé, donc dissous. Que je faisais pendant les 5 mois où je suis restée dans ce laboratoire, j'ai eu l'occasion de visiter la Scripps Institution Océanographique de Californie et j'ai rencontré donc un chercheur, Ken Smith, et il organisait la première mission biologiste sur une zone de la dorsale pacifique à 2600 mètres de profondeur où les géologues avaient observé des cheminées hydrothermales densément peuplées, vraiment avec des populations absolument extraordinaires de grands vers, de grands mollusques. Et Ken Smith, connaissant ma spécialité, voulait savoir si les gros clams et les moules, comment ils faisaient pour se nourrir, parce que toutes les analyses montraient qu'il y avait très peu de matière particulière à 2600 mètres de profondeur. Et il voulait savoir si effectivement ils étaient filtreurs. Il m'a donc invité à participer à sa mission. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les sources hydrothermales et que j'ai commencé effectivement donc à plonger.
Mais je vous remercie d'avoir accepté si vite de venir, messieurs.
Tout cela est étonnant.
Ah non, tournesol, Trifon, tournesol.
L'air de presque, mais c'est dangereux, ce
machin-là. Ah non, une machine à brocher les vêtements. Mais ceci est plus intéressant.
Un requin.
Et voici mon appareil à explorer le fond des mers. Comme vous pouvez le constater, messieurs, c'est un requin submersible. Il est équipé d'un moteur électrique et il peut descendre à 300 mètres. Il est muni de réservoirs d'oxygène pour 2 heures de plongée. Et maintenant, je vais vous montrer comment il fonctionne. Et Ah, ben j'y comprends rien.
L'océan, c'est un complexe, hein, et c'est un milieu complexe qui est fait de chimie et de biologie. Et les biologistes essayent de comprendre tous les mécanismes qui font comment ces peuplements s'établissent, comment ils fonctionnent et quels sont les cycles de matière, quels sont les cycles d'énergie au niveau des différents modèles que l'on peut rencontrer. Ils travaillent aussi bien sur des modèles locaux, c'est-à-dire sur nos côtes, quoi, en étudiant le plancton, en faisant des suivis à long terme, par exemple, que dans des zones tout à fait différentes, parce qu'il y avait des modèles à étudier. Par exemple, au laboratoire, on a beaucoup travaillé aux îles Kerguelen, en Antarctique, parce que le modèle antarctique est un modèle en lui-même de fonctionnement qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionnent certains domaines. Et les sources hydrothermales, et ben voilà, je les ai trouvées partout dans le monde, et c'était des modèles biologiques, c'est-à-dire on essaye de comprendre un peu comment fonctionnent, et en particulier les sources hydrothermales, et ben nous ont apporté vraiment un renouvellement dans nos façons de voir par le maintenance profond, c'est-à-dire les profondeurs. À un moment, on pensait que plus on allait en profondeur, plus la vie se raréfiait. Or, on s'est trouvé confronté à des oasis de vie, littéralement, hein, dans des zones très profondes, jusqu'à 6000 mètres de profondeur, dans des zones particulières, évidemment, localisées, qui étaient des zones tectoniques, là où vous avez de l'énergie. Et c'est comme ça qu'on a été amené, effectivement, à développer toutes sortes de recherches, qu'elles soient géologiques, chimiques ou biologiques. On va étudier une zone donnée, on va en faire la cartographie puisqu'on a actuellement des moyens extrêmement précis de sondeurs multifaciaux qui vous permettent d'avoir vraiment en temps réel la topographie d'un lieu. Et si on trouve dans ce lieu quelque chose d'extraordinaire, enfin d'intéressant, qu'on va aller développer tout un programme tout autour. Dans le cas des sources hydrothermales, au départ, ça a été fait par des géophysiciens. Pourquoi ? Parce que les géophysiciens n'étaient pas d'accord sur la théorie de la tectonique des plaques. Certains disaient « ça fonctionne bien comme ça » et d'autres disaient « non, ça c'est vraiment pas possible ». Ils ont donc décidé d'aller voir sur place s'il y avait effectivement des indices de tectonique des plaques. S'il y avait des indices de tectonique des plaques, ils devaient trouver du volcanisme, ils devaient trouver des indices chimiques qui permettaient de penser qu'il y avait bien une montée de magma dans certaines zones et plongée donc de plaques dans une autre zone. Eh bien, ils ont été par exemple dans une des zones les plus proches qu'ils connaissaient comme une zone active, qui était la zone des Galapagos, la dorsale des Galapagos. Et c'est là qu'ils ont couvert d'abord les preuves, effectivement, que la tectonique des plaques était vraiment réelle, alors qu'on n'avait qu'une hypothèse simplement. C'était uniquement une hypothèse théorique que Haas avait formulée en 64. Et là, ils ont découvert des indices chimiques et surtout des indices géologiques qui permettaient de penser qu'il y a du magma profond. Par contre, il y a eu une découverte absolument totalement inattendue, ça a été ces cheminées hydrothermales qui crachent de l'eau à 300-400 degrés et tout autour ces peuplements. Ça a été vraiment une découverte. À partir de ce moment-là, on a mis en place des programmes, on a dit il faut qu'on aille voir, est-ce que c'est pareil sur toutes les zones, les autres zones de dorsale, ou est-ce que c'est quelque chose de très limité. Donc les biologistes ont profité effectivement des expériences de géologues, parce qu'ils ont à ce moment-là cartographié les zones, enregistré toutes les données de température, toutes les données physiques, et nous on arrivait avec des données déjà précises de cartographie, et donc on pouvait situer des zones, on était sûr de trouver des cheminées et des peuplements. Et franchement, les biologistes ne s'attendaient pas du tout à trouver une vie pareille. Il faut bien vous dire que donc, dans ces sources hydrothermales, vous avez de l'eau qui sort, mais ce n'est pas une eau pure, c'est une eau chargée en minéraux, en métaux lourds, un cocktail de métaux lourds où on ne pensait pas que la vie soit possible. En fait, ces zones reculent, disons, la résistance de la vie. C'est pour ça que ces modèles nous ont intéressés. En dehors du fait qu'on se demandait comment ils pouvaient fonctionner, il y avait très peu de matière organique et beaucoup de toxiques. Et beaucoup de gaz, pétogène sulfuré, c'est un gaz dans lequel on peut pas vivre. Toutes ces questions se sont posées au fur et à mesure, si vous voulez, en disant mais comment ils font pour vivre, évidemment. Et c'est ce qui a permis de développer tous les programmes biologiques, parce que ces programmes ont été quand même des programmes qui ont mis en œuvre de très très gros moyens financiers. Moyens techniques, évidemment, il fallait des bateaux, il fallait des submersibles, il fallait également de gros crédits, de financement pour mettre tout ça en route. Et vraiment, c'est parce qu'on a découvert en fait un nouveau concept. C'est un concept qui va rester d'ailleurs comme une des découvertes majeures du XXe siècle, le concept de peuplement à base chimio-synthétique. Alors, c'est là où justement, au fur et à mesure, on a fini par comprendre. Quand on a découvert que ces animaux, ils étaient très étroitement associés à de la microfaune, c'est-à-dire des bactéries qui, elles, trouvaient l'énergie dans le milieu, parce que ces bactéries, elles se nourrissaient à partir de méthane ou à partir d'hydrogène sulfuré. Et ces bactéries qui, elles, élaborer la matière organique, la transmet aux organismes. Et vous avez une symbiose qui s'établit, si vous voulez, qui se développe et qui permet la vie. À partir du moment où certains animaux ont pu intégrer ces bactéries et vivre en symbiose, ils ont déjà développé de la matière organique. Et ensuite, vous avez vu toute une chaîne alimentaire des producteurs secondaires qui sont venus manger les producteurs primaires et puis ces gros vers qui se sont développés, ces mollusques. Et ensuite, vous avez donc des crabes qui sont venus, des poissons qui sont venus, et on a réalisé véritablement toute une chaîne alimentaire à base chimio-synthétique, c'est-à-dire qui ne dépend pas en fait de l'énergie solaire comme sur Terre, mais qui dépend de l'énergie chimique de ces zones-là. Mais c'était la première fois qu'on voyait un écosystème basé sur la chimio-synthèse. Et c'est ce qui a permis de développer autant de programmes et de richesses. Et moi, j'ai eu la chance d'être au début de cette histoire, en fait, qui a été vraiment une aventure tout court, d'ailleurs, parce qu'on avait mis, en 69, on avait mis le pied sur la Lune, mais on ne savait même pas ce qu'il y avait au fond de nos océans. Donc, au début, c'était vraiment fabuleux, on ne savait pas ce qu'on allait trouver, à chaque fois, c'était vraiment incroyable. Ça a été une aventure aussi scientifique, parce qu'on a trouvé des modèles biologiques qui ont permis le développement d'énormément de données et d'avancées dans différents domaines. J'ai fait à peu près plus d'une vingtaine de missions, quand même, dans différentes zones. Toutes les zones de dorsale, c'est-à-dire la dorsale pacifique, la dorsale atlantique, également les bassins arrière-axes, c'est-à-dire les zones tectoniques très actives des Fidji, Manus, etc., où l'on trouve également des sources hydrothermales. Et puis, un autre programme en parallèle qui s'est monté un petit peu plus tardivement a été d'étudier en fait les autres zones que l'on dit d'accrétion. D'accrétion parce que vous avez une montée de magma à cet endroit-là qui ressort par des phénomènes de volcanisme quoi, hein, et des cheminées. Et vous avez formation de la croûte terrestre. Cette croûte terrestre s'étale évidemment. Et comme la surface de la Terre est finie, à un moment, une plaque va plonger sur une autre plaque. Et cette zone où une plaque plonge, ce sont des zones, ce qu'on appelle des zones de subduction. Ce sont les zones des grandes fosses océaniques et ce sont des zones extrêmement tectoniques. C'est là où on a les tremblements de terre. Par exemple, le Japon a beaucoup de soucis à se faire parce qu'il est juste sur une zone de plongée de ces deux plaques. Pour voir ces cheminées, on a d'abord eu, et c'était bien parce que maintenant on va plus vers des engins non habités, les ROV, ce qu'on appelle les Remove Oceanographic Vehicle, c'est-à-dire les engins autonomes. L'IFREMER vient juste d'en lancer un 6000 mètres. Nous, on a eu la chance à l'époque de bénéficier du fait que la France était totalement en avance dans ce domaine-là. Et ce qui a permis de faire la coopération avec les Américains, c'est qu'on possédait justement les sous-coupes. La deuxième mission donc était avec la SIANA. La SIANA, c'était l'ancienne sous-coupe 2000 du commandant Gusteau, qui a été refondée par le CNXO de l'époque, qui ensuite s'est transformé en IFREMER. Donc la France possédait les sous-coupes, et elle possédait aussi, il faut le dire, parce qu'on ne le connaît pas assez, on était très en avance sur certaines technologies. Il y a des technologies, par exemple, que les Américains ont adoptées. La technologie de mise, par exemple, en mer avec le portique hydraulique, c'est une technologie d'ingénieurs français. À l'époque, moi, quand j'ai fait la première mission Oasis en 82, l'Alvin était sur un bateau support et était sur une sorte d'ascenseur, sur un catamaran. Il était sur un ascenseur et on descendait l'Alvin sur cet ascenseur et on le mettait à l'eau manuellement. Et tout le monde participait à la manœuvre avec des câbles, scientifiques compris. Donc c'était extrêmement lourd à mettre en œuvre. Et ensuite, la mission suivante, ils avaient adopté le portique hydraulique que la France avait mis en place et qui permet simplement par basculement, si vous voulez, de mettre à l'eau les engins. D'autre part, il y avait beaucoup de technologies qui avaient été mises. Le sondeur multifaisceau, par exemple, ce sont deux ingénieurs français également qui avaient trouvé cette technique. On connaissait le sondeur unique, mais le sondeur multifaisceau qui permettait d'envoyer plusieurs faisceaux, c'est-à-dire de cartographier finalement et d'avoir en direct la cartographie, ce sont des ingénieurs français. Très tôt, on a été en coopération avec les Américains qui possédaient également l'Alvin, mais à la différence des Français, l'Alvin est un engin qui dépend et qui dépend toujours de l'armée. Alors que nous, on avait un organisme spécial qui gère nos engins, qui est actuellement l'IFREMER. Je rejoins le navire Port de France donc pour la mission de la fosse de la Barbade. Et donc ce navire pouvait embarquer un équipage de à peu près, je crois, 15 personnes et jusqu'à 25 scientifiques. C'est un bateau qui, à l'origine, était un chalutier. C'était quand même assez sommaire, notamment pour les cabines. On était parfois à 4 ou 5 dans des dortoirs, littéralement. Hein. On avait aménagé deux laboratoires. Puis bon, il était surtout porteur du Nautile, donc il y avait beaucoup d'engins liés aux submersibles et autres. C'était vraiment pas très pratique. Il a été remplacé par l'Atalante en 89, où là, effectivement, alors là, on avait des cabines beaucoup plus confortables et beaucoup plus agréables. Les missions de Manon et Nautiperque avaient en commun le fait qu'elles étaient menées par des géophysiciens, hein, c'est-à-dire que les maîtres d'œuvre étaient des géophysiciens qui voulaient étudier ces zones tectoniques profondes qui sont généralement des volcans de boue hein, à ce moment-là. Leur problème, c'est que dans ces zones-là, vous avez dues au mouvement tectonique, vous avez des compressions, on a des sédiments hein, dans ces zones-là, c'est de la vase profonde. Et ces sédiments sont compressés par ces mouvements tectoniques et vont expulser des fluides. Et ces fluides, si vous voulez, ne sont pas des fluides comme les cheminées hydrothermales, ce sont des fluides froids, bien sûr, très froids même, 2 degrés, 4 degrés, et qui sont chargés également en méthane et en hydrogène sulfuré. Et c'est pour ça que ça les intéressait, parce qu'il y avait le problème des méthanes, du méthane sous forme de clatrate, c'est-à-dire des méthanes solides. Ils recherchaient ces zones-là parce que c'était sûr que c'était des zones actives. Leur problème, c'est que ces zones-là, les fluides percolent, mais d'une manière très discrète. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les localiser. Et c'est pour cette raison qu'ils ont invité des biologistes. Pourquoi ? Parce que dans ces zones-là, dans les zones tectoniques actives, eh bien, vous avez des peuplements importants également de mollusques ou de vestimentifères, enfin de vers, et qui indiquent en fait ces zones de fluides. On n'a pratiquement pas d'autres indices, sinon évidemment il faut faire des analyses chimiques approfondies. Et donc, les biologistes étaient à même de localiser, par leurs observations, les zones plus actives. Parce que c'était des zones où on voyait du sédiment réduit. Et où on voyait du sédiment réduit, eh bien, vous voyez des grands mollusques, des grands clams, qui, d'ailleurs, comme un clamodrome, et qui se déplacent. Hein, ils ont un pied musculé, ils se déplacent et ils viennent dans ces zones-là. Donc, les biologistes étaient très importants à bord. Et ils devaient localiser, cartographier ces zones, parce que c'était des zones actives. Et ils en profitaient, bien sûr, pour faire des prélèvements. Donc, et les fixer pour études ultérieures, soit dans l'azotique pour la biochimie, soit en microscopie électronique, donc pour étudier les bactéries à l'intérieur de ces organismes. Par exemple, à la mission Manon, j'ai fait 3 plongées au cours de cette mission pour justement faire des repérages de zones. Au Manon, nous avions le Nautilus à bord, un sous-marin de poche, donc habité, avec 3 personnes, donc un pilote, un copilote selon la réglementation française et un scientifique. Ce Nautilus a été mis en service en 84 par l'IFREMER, hein, il a remplacé la Ciada, qui surtout avait le handicap pour les biologistes de n'avoir qu'un seul bras, alors que le Nautilus a deux bras préhenseurs. Il est connu, le Nautilus, hein, c'est une forme de cigare, alors que beaucoup plus, c'est pas une forme de soucoupe, c'est une forme de cigare. Il est bien connu parce qu'il a plongé sur l'épave du Titanic, à 3800 mètres de profondeur, donc en 87. Tous les submersibles de poche, ce sont des boules de titane, des sphères de titane de 2,24 m, d'une épaisseur de 6 cm. Et vous avez percé donc d'un sas d'entrée et de sortie, bien sûr, parce qu'il faut rentrer et sortir. Et vous avez 3 hublots qui permettent l'observation. Des hublots de 15 cm, hein, ils ne sont pas très grands. C'est des hublots avec des vers extrêmement épais, évidemment, qui peuvent résister. Alors, le Nautilus a été prévu pour résister, pour aller jusqu'à 6000 mètres. En fait, il peut aller beaucoup plus profond, bien entendu, mais la réglementation, on ne dépasse pas 6000 mètres. Et il est équipé en dehors de ça, vous avez un habillage tout autour, qui fait à peu près 8 mètres de long. Vous avez des batteries, évidemment, pour l'énergie. Vous avez des ballasts pour la maintenance, et puis surtout pour pouvoir remonter, parce qu'on monte simplement en larguant du plomb. Donc, il remonte de manière naturelle par potabilité positive. C'est tout, hein, il n'y a pas d'autre système. Hein. Ensuite, vous avez des moyens d'éclairage, parce qu'il fait pire. Donc, vous avez des projecteurs. Vous avez également des moyens d'observation, c'est-à-dire on a des caméras vidéo et des caméras de photo. Et on peut à l'intérieur vraiment visualiser ce qu'on prend en photo ou en vidéo. Donc, on est chargé évidemment des photos et des vidéos. Et vous avez également des bras qui permettent de saisir. Par exemple, les clams, on les saisissait avec les bras pour les mettre dans un panier donc biologique, qui permettent soit de déposer du matériel, des engins pour faire des prélèvements d'eau, par exemple, des bouteilles de prélèvement d'eau, des bouteilles de plancton. Au début, on n'avait pas de système de navigation et on était en contact, il fallait qu'on soit en contact avec le bateau en permanence, ce qui était quand même gênant parce qu'on faisait beaucoup moins de choses. Mais maintenant, les sous-marins sont équipés d'un système de navigation autonome et avant chaque mission, on va émerger des balises, trois balises en triangle dans la zone et le sous-marin est en contact en permanence avec ses balises et avec le navire. Et puis, on a également une liaison VHF qu'on peut effectivement utiliser avec le bateau si nécessaire. De temps en temps, on donne quand même un contact pour montrer que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. À bord, on avait systématiquement une entrevue avec les pilotes à l'intérieur de avant de plonger. On doit rentrer à l'intérieur du submersible et le pilote va vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur, hein, quels sont les différents instruments, vous familiarisez avec le matériel parce qu'il y a énormément d'électronique, hein, à l'intérieur du sous-marin. Et il va vous montrer comment, en cas de problème avec le pilote, mais disons que dans le sous-marin français c'est moins le cas parce que si le pilote a un problème, il y a toujours le copilote qui peut prendre le relais. Mais enfin bon, moi à l'Alvine, on m'a montré comment larguer tout ce qui était autour de la sphère. En dernier recours, évidemment, hein, si c'est vraiment, on peut plus faire autrement. Le pilote est HS, il est plus fonctionnel. Vous êtes dans une situation où vous êtes complètement bloqué. À ce moment-là, en haut, on vous donne l'ordre d'appuyer sur les boutons et on vous montre comment déclencher pour faire partir tout l'habillage, tout le ballast, enlever le plomb et ensuite la sphère, elle remonte naturellement par elle-même. Donc on vous récupère en surface. L'autonomie, c'est à peu près 8 heures, c'est l'autonomie des batteries. Mais vous avez 120 heures de sécurité au cas où. En général, les plongées ont été entre 5 heures et 7 heures. Au début, elles étaient plus longues et puis après, elles ont été plutôt raccourcies à 5 heures maximum sur le fond. Le scientifique, lui, il a un plan de travail que lui a donné le chef de mission. Donc, il a un certain nombre soit d'observations. Ça dépend si c'est des plongées d'exploration. Donc à ce moment-là, on marche en permanence, on explore, on repère, on prend des photos, des vidéos. Ce sont les pilotes et le copilote qui conduisent l'appareil et qui manipulent les bras. C'est-à-dire tous les prélèvements sont faits parce qu'il faut effectuer une certaine dextérité puis un certain entraînement pour manipuler ses bras. Et ce sont les pilotes ou éventuellement le copilote qui manipule. Par contre, le scientifique donne les instructions au pilote et au copilote quand il s'agit de s'arrêter à un endroit s'il a vu quelque chose d'intéressant ou de prélever ou de faire une photo. C'est nous qui déclencherons l'appareil de photo ou la vidéo en fonction de ce qui nous intéresse. L'observation se fait par les hublots qui grossissent, hein, qui grossissent un petit peu puisqu'ils sont concaves par la caméra de contrôle. On a une caméra de contrôle qui enregistre en permanence là où vous allez. On avait choisi, comme c'était un volcan de boue rond, on avait choisi de faire une croix comme ça. Donc j'ai fait des explorations en croix pour délimiter les limites du système, repérer les endroits actifs. Donc on avait là énormément on avait des clams, mais on avait aussi des éponges, tout à fait extraordinaires d'ailleurs, parce que ce sont des éponges carnivores qu'on ne connaissait que de grottes. On a repéré, on a fait des prélèvements d'eau, on a fait des prélèvements avec le carottier de sédiments et des prélèvements bien sûr biologiques. Il y avait une caméra qui, de toute façon, filmait en permanence et une autre qu'on pouvait déclencher sur des points bien particuliers qui nous intéressaient. On est tellement intéressé par ce qu'on fait que, de toute façon, on ne pense même pas qu'on a 6 km d'eau au-dessus de la tête et qu'on est dans un milieu qui est complètement anormal. Mais on est tellement intéressé par ce qu'on fait et puis dans l'action qu'on ne pense pas vraiment à autre chose. On s'arrête à moitié chemin pour manger un sandwich quand même, parce qu'on a embarqué des sandwichs, on ne va pas sans rien. Mais sinon, on passe son temps à observer, à travailler et à être actif. Donc, on n'a pas le temps de penser à vraiment autre chose, croyez-moi. Et d'ailleurs, en remontant, je me souviens que l'émission Manon, on était tellement fatigués que moi, je me suis endormie quasiment quittant le fond. Il faut dire qu'il faut 2 heures hein, pour descendre à 6000 et 2 heures pratiquement pour remonter. Je me suis endormie sur le fond, je me suis réveillée, on était pratiquement en surface. Sinon, en descendant, on peut regarder de la vidéo, on discute avec les pilotes, on a le temps de préparer les choses, de revoir le programme. Quand on découvre, quand on descend et qu'on découvre ces sources hydrothermales, c'est fabuleux, quoi. On voit ces animaux et on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que... Et puis c'est coloré. Vous avez les tubes qui sont rouges, les panaches des vers qui sont rouges, vous avez les clams blancs, les crabes, c'est tout un monde, disons, c'est tout un monde, un autre monde. Et on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, quoi, quand on arrive dans ces zones-là. Si vous êtes dans les zones hydrothermales, on est dans une zone de dorsale. Une zone de dorsale, ça veut dire qu'on a un rift, qu'on appelle des dorsales actives comme la dorsale pacifique, qui quand même s'éloigne du centre à 20 cm par an. C'est pas négligeable, hein, les mouvements, hein, ils sont très très importants. Là, vous avez un rift, c'est-à-dire un rift, c'est quoi? C'est une vallée marine. Donc, on a l'impression, et ça, c'est une des impressions que j'ai eues extraordinaire lors d'une mission d'exploration dans la dorsale pacifique. On a fait de l'exploration et on était dans un rift, c'est-à-dire une vallée marine avec des montagnes de chaque côté. Et puis, on serpentait entre les sources hydrothermales, les cheminées hydrothermales, comme ça, tout le long de la. On avait l'impression d'être dans un film d'animation, c'est pas compliqué. J'ai retrouvé ça en allant en Islande, dans le nord de l'Islande. Vous avez un coin où il y a une formation de rift, là. Le rift est en train de se former et vous retrouvez exactement ce que j'ai vu sous l'eau, à 2600 mètres, c'est-à-dire la vallée marine avec les parois, le rift. Il manquait juste les clams et les moules. Mais c'est exactement ça, et les cheminées actives, bien sûr. Alors ça, c'est dans les zones hydrothermales. Maintenant, dans les zones, effectivement, de subduction, dans les fosses, c'est de la vase, de la vase, de la vase à perte de vue, quoi. C'est des milieux extrêmement qui vous paraissent très froids, c'est sombre, c'est la nuit, et qui vous paraissent très inhospitaliers. Et voir ces animaux, mais qui sont ravis apparemment de vivre dans ces zones-là, c'est quand même incroyable. J'ai observé dans ce domaine-là, c'est un peu moins profond, c'est à 800 mètres, et c'était un lac de lave dans le golfe de Mexico en Atlantique, au large de la Louisiane. On voyait vraiment une zone extrêmement réduite et énormément de bulles de méthane, vraiment des zones de goudron, littéralement, et tout autour, des millions et des millions de moules, des moules qui vivaient en association avec des bactéries qui utilisaient le méthane. Mais c'était noir, c'était goudronneux, c'était froid. Et pourtant, des millions de moules. C'est incroyable, hein? Dans ces zones absolument inhospitalières, où vraiment on se dit, mais c'est pas possible qu'il puisse y avoir de la vie. Et oui, il y avait de la vie, et beaucoup de vie. C'est très optimiste. Je pense que la vie, elle n'est pas près de disparaître, finalement, on pense, parce qu'il y aura des adaptations. Ça sera pas, oui, ce sera autre chose de ce qu'on a connu, mais probablement, il y aura d'autres choses. On en vient à se dire ça, à être optimiste quand on voit des zones comme ça. Il y a eu quelque chose comme plus de 5000 plongées en submersible, hein, donc jusqu'à 6000 mètres. Personne n'a rencontré de monstres marins. Ça, c'est un point. on voit des requins, on voit des gros requins, on voit des grosses bêtes, des gros poulpes, des formes tout à fait étonnantes. La plupart du temps, on ne voit rien du tout, parce que c'est des tranches d'eau très importantes. Mais par contre, on a l'occasion, dans certaines zones, par exemple dans les zones du Fosse du Pérou, qui sont très riches au point de vue biologique, beaucoup de bioluminescence, énormément d'animaux luminescents. Et ça, c'est toujours un plaisir, évidemment, de voir ce spectacle du plancton luminescent, quoi. Les méduses, les poissons, certains poissons.
À mesure que je poursuivais le voyage, le Nautilus et ses moyens de propulsion excitaient de plus en plus ma curiosité. Répondant à l'invitation de mon hôte, je visitais le navire de fond en comble. Le capitaine Nemo paraissait décidé à tout me montrer.
C'est énorme, ça dépasse l'entendement. Comment un être a-t-il pu concevoir un tel navire et réussir à asservir une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis? Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde.
Ou à le détruire. Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise.
Avec un détachement apparent, le capitaine Nemo détenait la clé de l'avenir du monde. À mesure que je l'étudiais, je prenais conscience que cet homme étrange était habité par des forces gigantesques.
Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout y règnent aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat, on se dévore, on se taille en pièces. Mais à 20 pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. J'y suis libre. Imaginez ce que l'homme ferait s'il contrôlait des machines telles que ce submersible. Il vaut mieux que l'on croit encore aux monstres qu'on me chasse au harpon.
Lors de ma plongée, il s'est trouvé qu'on a battu un record parce que on avait perdu une balise. Elle avait cessé d'émettre. Et en fin de mission, en fin de plongée, on avait pour instruction d'aller essayer de récupérer cette balise parce qu'une balise coûte assez cher et on l'avait localisée avec le sondeur. Le problème, c'est qu'elle était beaucoup plus bas. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on a dit, on va aller voir si c'est pas trop bas, on va essayer de la récupérer. Et effectivement, on l'a trouvée à 6000 15 mètres. Mais bon, il y a prescription. Hein. Normalement, sur les rapports, on n'a pas mis que c'était 6015 mètres parce qu'on n'avait pas le droit d'aller à 6015 mètres. Mais voilà, on a quand même récupéré la balise. Ça m'a beaucoup apporté. Moi, d'abord, ça m'a apporté un parcours passionnant d'un point de vue humain, parce que j'ai rencontré énormément de collègues scientifiques à qui j'ai collaboré. D'un point de vue scientifique, des modèles biologiques extraordinaires sur lesquels on a travaillé avec mon équipe. On s'est plus focalisé sur ces mollusques, hein, puisque ça a été notre modèle, pour comprendre d'abord comment ils se nourrissaient. Donc, on a trouvé cette fameuse symbiose. Ça a été extraordinaire de trouver ces bactéries à l'intérieur de la bulle qui expliquaient tout, en fait. Ils n'étaient pas vraiment pas filtreurs, ce n'étaient pas des organismes filtreurs, c'était des organismes qui vivaient grâce à leur symbiose, donc ça a été extraordinaire. Et puis la deuxième question qui s'est posée, c'est comment ils résistent à la toxicité. J'ai des étudiants qui ont travaillé en thèse sur les problèmes de détoxification des sulfures notamment, parce que normalement, les sulfures, c'est toxique, on ne peut pas vivre avec des concentrations de sulfure. Et pourtant, ils ont développé des mécanismes, on a travaillé sur ces mécanismes. Et on a travaillé également sur les mécanismes de détoxication des métaux, parce que vous avez des cocktails de métaux qui sont incroyables et qui auraient dû faire mourir n'importe quel organisme vivant. Et pourtant, ces animaux ont développé des systèmes. Alors, on ne travaillait pas sur les côtés appliqués, si vous voulez. Nous, on essayait de décrire les mécanismes et autres, mais j'espère qu'un jour, on vous reprendra toutes ces observations et ces données, parce qu'on pourrait en faire une application. Une cellule de mollusque, c'est exactement une cellule même, elle fonctionne de la même façon. Et on pourrait avoir vraiment des modèles de mécanismes de détoxication en observant ce que font justement ces animaux. Ça a été une aventure, peut-être une des dernières grandes aventures d'ailleurs sur Terre. la découverte des abysses et l'exploitation des abysses. Oui, on a beaucoup à apprendre de la nature en général. Et cette mer dont on vient quand même, hein, elle nous apporte beaucoup de choses. Elle nous apporte de l'énergie, elle nous apporte des ressources, elle nous apporte des médicaments. Il faut la préserver. C'est notre avenir qui est en jeu dans ces mers. On n'a pas encore tiré tous les modèles. Il y a beaucoup de choses qui se développent maintenant. Prendre pour modèle le biologique, pour des applications, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui va prendre de l'importance, parce que la nature a eu des millions d'années pour résoudre des problèmes auxquels nous, on se heurte maintenant. Donc, il faut l'observer, il faut voir comment des organismes ont pu dépasser ces problèmes-là, et pour en avoir un bénéfice. Et donc, il faut absolument qu'on continue à préserver ces milieux, ces espèces sur lesquelles on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre.
Aline a publié plus d'une centaine de papiers scientifiques et a notamment rédigé le guide sous-marin de la Méditerranée. Maintenant à la retraite, elle partage son expertise pour œuvrer à la défense de l'environnement, auprès d'organismes comme le parc naturel marin du golfe du Lion. Elle transmet aussi toutes ses aventures et ses expériences auprès des plus jeunes. Retrouvez le portrait d'Aline sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, écrivaine, qui a traversé l'océan Atlantique sur un petit voilier de pêche du Bangladesh.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.